Saint Paul.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Pendant ce mois de novembre, l'Église nous fait méditer sur nos fins dernières, la mort, le jugement, l'enfer et le ciel. Il y a quatre fins dernières. Et cette méditation est salutaire. La pensée de la mort nous rappelle que nous ne sommes ici-bas que des pèlerins de passage et qu'un jour nous mourrons. Il faut nous y préparer. La pensée du jugement et de l'enfer nous garde du péché et nous maintient dans la crainte de Dieu, qui est le commandement de la sagesse, comme dit l'Écriture. Sans cette crainte, l'âme se relâche et elle oublie qu'elle devra rendre des comptes à Dieu. Quant à la pensée du ciel, elle nous rappelle que nous avons été créés et placés sur la terre pour nous préparer à rejoindre le ciel. C'est là notre but. Notre vraie patrie, c'est le ciel. Et c'est pourquoi, comme le dit saint Benoît dans sa règle, nous devons souvent rouler ces pensées dans notre esprit. C'est l'expression qu'il emploie. Rouler ces pensées dans notre esprit, c'est-à-dire les méditer. La méditation des fins dernières est un moyen, un des moyens les plus efficaces pour avancer dans la voie de la perfection chrétienne. Ce matin, nous voudrions vous parler du ciel, ou plus exactement du désir de la vie éternelle, du désir du ciel. Et à ce sujet, saint Benoît dit qu'il faut désirer la vie éternelle de toute sa concupiscence spirituelle, c'est-à-dire la convoiter de toute son âme. L'expression est étonnante, car nous sommes habitués à considérer la concupiscence plutôt en mauvaise part, comme une passion sensible qui nous tire vers le bas. Mais il s'agit ici de la concupiscence spirituelle, c'est-à-dire d'un désir volontaire qui procède de la volonté, et même d'un désir surnaturel qui procède de la foi. Saint Benoît s'exprime ainsi pour que nous comprenions justement que la convoitise ne doit pas se limiter aux réalités sensibles. Nos désirs se portent trop facilement vers les biens périssables, les biens sensibles, et parfois même de manière coupable. Il faut au contraire tourner nos désirs vers le seul objet qui en vaut vraiment la peine, la seule chose vraiment désirable, c'est-à-dire Dieu, la vie éternelle. Car le désir est une force puissante. C'est un peu comme le ressort de l'action humaine. Appliqué au mal, il entraîne l'homme à sa perte et le ravale au rang de la bête. Appliqué au bien, il élève l'homme, il le rapproche de Dieu et il lui fait faire de grandes choses. Donc, il faut désirer de tout notre cœur le bien de la vie éternelle. Et en effet, la perspective du bonheur qui nous est préparée dans le royaume de Dieu devrait illuminer toute notre vie et régler toute notre conduite. Car l'homme, comme tout être d'ailleurs, agit pour une fin. C'est un grand principe de la philosophie. Mais à la différence des animaux qui ne sont pas raisonnables, qui atteignent leur fin de manière nécessaire parce qu'ils ne sont pas libres, parce qu'ils agissent uniquement sous la poussée de leur instinct, l'homme, lui, parce qu'il est doué de raison, peut connaître sa fin et s'y porter par un choix volontaire, libre. Il peut ordonner son effort et son action vers le but qu'il se propose d'atteindre. Or, la fin suprême que l'homme doit rechercher par-dessus tout, n'est-ce pas de toute évidence la vie éternelle ? Vous nous avez fait pour vous, Seigneur, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il se repose en vous. Vous connaissez cette phrase de saint Augustin, elle est au début des confessions. Elle est très profonde et très vraie. Dieu nous a fait pour lui, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il se repose en Dieu, c'est-à-dire au ciel. Nous sommes faits pour Dieu. Il n'y a que Dieu qui puisse rassasier et combler l'âme humaine. Tout ce qui n'est pas Dieu, même les joies humaines les plus légitimes, les joies de la famille, les joies de l'esprit, si elles ne sont pas subordonnées à l'amour de Dieu, laissent l'âme insatisfaite. Alors, a fortiori, les joies désordonnées. Dès lors, comme le dit notre Seigneur dans l'Évangile, que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? Et oui, que lui importe de réussir dans toutes ses entreprises, d'être heureux, d'être riche, estimé, comblé de biens, s'il doit être au dernier jour exclu du royaume de Dieu et rejeté en enfer pour l'éternité? À quoi bon? C'est tout à fait inutile, c'est vain. Et inversement, que pèsent toutes les épreuves et les souffrances d'ici-bas, si grandes qu'elles puissent nous paraître, au regard de ce bonheur qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir et qui ne doit jamais avoir de terme? C'est pour l'éternité. Donc ne nous trompons pas au sujet du bonheur. Même si un certain bonheur est possible en cette vie, c'est vrai, le vrai bonheur, lui, n'est pas de la terre. Il est d'un autre ordre. C'est le bien suprême, préparé par Dieu pour ceux qui l'aiment. Un bien infini, qui dépasse tout ce que l'œil a jamais vu, tout ce que l'oreille a jamais entendu, tout ce que l'homme peut concevoir de plus beau, comme dit saint Paul. C'est Dieu, Dieu lui-même. À dire vrai, aucune considération n'est aussi puissante que celle-là, la méditation de cette grande vérité, pour détacher l'âme de toutes les choses créées, pour l'affermir au milieu des tribulations. Il n'y a rien de plus puissant. Et également, cette considération est le moyen le plus fort pour nous établir dans la joie et nous ôter toute crainte de la mort. Nous sommes faits pour le ciel. Et c'est ce que montre spécialement la vie des saints. Tous les saints ont désiré le ciel. Il suffit de lire leur vie. Et ils l'ont désiré d'une manière ardente. Et c'est spécialement vrai des martyrs. Si ces martyrs ont pu supporter les épreuves qu'ils ont traversées au cours de leur vie, et leurs supplices surtout, s'ils ont pu résister aux assauts du monde, de la chair, du démon, s'ils ont pu rester toujours joyeux, c'est parce qu'ils ont tenu les yeux sans cesse levés vers le bonheur promis par Jésus-Christ à ses serviteurs fidèles. Alors citons un seul exemple, mais un exemple très représentatif. C'est celui de saint Ignace d'Antioche, le troisième évêque d'Antioche en Syrie, condamné en 107 après Jésus-Christ, donc au tout début de l'Église, à être dévoré par les bêtes dans l'amphithéâtre de Rome, le Colisée. Il fut conduit enchaîné depuis Antioche en Syrie jusqu'à Rome. Et au cours de ce douloureux voyage, il était enchaîné, prisonnier, il écrivit 7 lettres qui nous dévoilent son ardent désir du ciel et sa joie débordante à l'idée de son prochain sacrifice. Et il écrivit notamment aux chrétiens de Rome pour les supplier de ne rien tenter en sa faveur qui lui ferait perdre le bénéfice de son martyre. Je vous lis quelques extraits de cette lettre. « Jamais, dit saint Ignace, je ne retrouverai une pareille occasion d'aller à Dieu. Je ne vous demande qu'une chose, dit-il aux chrétiens de Rome, c'est de me laisser offrir à Dieu la libation de mon sang. Laissez-moi être la pâture des bêtes par lesquelles il me sera possible de trouver Dieu. Je suis le froment de Dieu, je suis moulu par la dent des bêtes pour être trouvé un pur pain de Jésus-Christ. » C'est lui que je cherche, qui est mort pour nous. Lui que je veux, qui est ressuscité pour nous. Mon enfantement approche. Laissez-moi recevoir la pure lumière. Mon désir terrestre a été crucifié. Il n'y a plus en moi de feu pour aimer la matière, pour aimer cette vie. Mais il y a une eau vive qui murmure au-dedans de moi et qui me dit « Viens vers le Père ». Je ne me plais plus au plaisir de cette vie. C'est le pain de Dieu que je veux, qui est la chair de Jésus-Christ. Et pour boisson, je veux son sang, qui est l'amour incorruptible. Oui, lettre magnifique. C'est la première et la plus belle expression de ce désir du martyr qui enflammait les chrétiens fervents de ces premiers siècles de l'Église. Mais on peut se poser la question, d'où leur venait un tel désir, une telle joie? Eh bien, il ne faut pas en chercher le secret ailleurs que dans la méditation fréquente de la béatitude éternelle promise par Dieu à ses élus. C'est ça leur secret. Saint Bonaventure, qui l'avait très bien compris, a écrit, beaucoup plus tard, donc au XIIIe siècle, ces quelques mots dans lesquels il explique cette réalité, cette chose. « Ô mon âme, dit-il, il s'adresse à son âme, ô mon âme, si ces joies célestes, les joies du ciel, étaient bien présentes à ton cœur, cet exil, l'exil de la vie présente, ne serait pour toi qu'un avant-poste de la patrie, où tous les jours, par anticipation, tu goûterais spirituellement ces divines douceurs. » Et il ajoute, et c'est très important, c'est très bien vu, « car telle est la force de l'amour, que tu habites plus réellement là où tu contemples ce qui t'est cher que là où tu es par nature. » En d'autres termes, quand on aime vraiment Dieu et le ciel, quand on le contemple, qu'on le médite, on est déjà en quelque sorte plus présent au ciel que nous ne sommes encore sur terre. Tels sont les avantages que procure la pensée de la vie bienheureuse. Alors cherchons, à la lumière des enseignements de l'Église bien sûr, à entrevoir quelque chose de ce bonheur dont jouissent les élus du ciel. Et la théologie nous enseigne que dans la constitution de ce bonheur, il entre deux éléments, à savoir l'exemption de tous les maux et la possession de tous les biens. L'exemption de tous les maux, c'est déjà une réalité à elle seule très enviable, tellement enviable même que le paganisme n'a pas imaginé un idéal plus élevé que celui-là. Et de fait, les élus n'auront plus à redouter aucune gêne, ni pour le corps, ni pour l'âme. Ils n'éprouveront plus jamais ni la faim, ni la soif, dit saint Jean dans l'Apocalypse. Ils ne sentiront plus les ardeurs du soleil, ni aucune intempérie. Et encore, Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux, et il n'y aura plus désormais ni mort, ni gémissement, ni cri de douleur, ni souffrance. De là ce sentiment de sécurité absolue, définitive, qu'on sent déborder dans plusieurs textes de l'Écriture, même de l'Ancien Testament, comme par exemple ce passage d'Isaïe. Voici ce qu'Isaïe écrit. « On n'entendra plus jamais parler d'iniquité dans cette patrie, la patrie du ciel. Plus de guerre, plus de destruction sur les frontières. Le salut sera le maître de tes remparts. » Et l'hymne de joie, remplira tes portes. Ce ne sera plus le soleil qui t'éclairera pendant le jour, ni la lune qui se lèvera pendant la nuit, mais le Seigneur lui-même sera ton éternelle lumière, et ton Dieu sera ton triomphe. Le soleil qui t'illumine ne se couchera plus, tu ne verras plus décroître l'astre des nuits, car le Seigneur sera ton flambeau éternel, et les jours de ton épreuve seront passés. Vous voyez comme tout ça respire une grande paix, une grande joie. Mais ça n'est encore que l'aspect négatif de cette béatitude du ciel. À la disparition de tous les maux s'ajoutera la possession de Dieu, et c'est encore plus beau. Dieu comblera tous nos sens, toutes nos puissances, les puissances de l'âme et du corps, jusque dans leurs aspirations les plus profondes. Tous les plaisirs de la terre mis ensemble ne se réfère comme la plus petite goutte de la joie dont l'âme sera alors envahie. Le psalmiste emploie même le mot de « torrent de volupté ». C'est ça le ciel. Et ce bonheur aura pour cause première la vision directe de Dieu qui est l'essence même de la béatitude céleste. Nous verrons Dieu. Si sur cette terre, la vue d'un visage empreint de charme suffit parfois à toucher le cœur de l'homme, au point même de lui faire oublier et mépriser tout le reste. Alors, quel ravissement, quel transport d'amour n'éprouvera pas l'âme admise à contempler Dieu face à face. Pensez à Sainte Bernadette, la seule vue de la Sainte Vierge la plongeait dans l'extase. Alors, que sera-ce que la vision béatifique du ciel ? Et de ce bonheur fondamental, la vision béatifique, découlera une infinité d'autres jouissances. On ne peut pas les décrire ou les détailler ici. Ces jouissances, sans doute, sont moins considérables en elles-mêmes. Mais elles ont plus de force pour nous toucher parce qu'elles sont plus à notre portée, plus proches de ce qu'on connaît ici-bas. Voici comment Saint-Pierre d'Alcantara les résume. Là, dit-il, la santé sans maladie, la liberté sans esclavage, la beauté sans ombre et sans défaut, l'immortalité sans atteinte de corruption, l'abondance sans besoin, le repos sans trouble, la sécurité sans crainte, les connaissances sans erreur, le rassasiement sans dégoût, la joie sans tristesse et l'honneur sans contradiction. Et il continue, là, une compagnie parfaite et souverainement aimable, tous les élus ensemble. Là, tous seront dans l'allégresse, tous béniront et chanteront ce souverain bienfaiteur de qui émanent tous les dons dont nous jouirons pour l'éternité. Alors, mes frères, la méditation de ces fins dernières, le désir du ciel, vous le voyez, tenait une très grande place dans les préoccupations des anciens chrétiens. Aux âges de foi, on méditait ces choses-là, constamment. On vivait dans ces réalités-là. Et ça n'a rien de surprenant. Une religion muette sur les fins dernières est une religion déficiente, disqualifiée. Toute religion digne de ce nom doit donner une réponse au problème de la destinée humaine. Tout homme réfléchi organise sa vie en fonction de sa conception de la mort, du jugement, de la rétribution, de l'éternité. Sinon, c'est un fou. Et la réponse apportée à ces questions par le Christ et par l'Église catholique est la seule réponse vraiment satisfaisante. C'est la seule vraie. Et hélas, il aura fallu attendre les temps modernes, pénétrés de matérialisme et de naturalisme, plus ou moins apostats, pour que ces questions n'intéressent plus les hommes. Qui pense encore à son éternité? Nos contemporains, les hommes d'Église eux-mêmes, ne se préoccupent plus que d'instaurer un paradis factice sur cette terre, comme si on devait y vivre éternellement, tout à la gloire de l'homme. Et en agissant ainsi, ils délaissent la vraie réalité. La vraie réalité, c'est celle de Dieu, du ciel, de la grâce. Ils délaissent cette réalité sous prétexte qu'elle est invisible, qu'elle ne leur parle plus. Et ils la délaissent au profit d'une réalité fugace, caduque, et même, aujourd'hui, au profit d'une réalité virtuelle, qui n'existe que sur leurs écrans et dans leur imagination. C'est de la folie. Alors, mes frères, ne nous laissons pas gagner par cet esprit. Restons surnaturels. Méditons nos fins dernières. Unissons-nous à la liturgie catholique qui nous fait demander sans cesse les biens du ciel dans ses oraisons. Relisez ses oraisons, vous verrez, les allusions sont innombrables. Par exemple, « Doceas nos terrena despiceri et amare celestia ». On redit ça souvent, enfin l'Église le redit. « Enseignez-nous à mépriser les choses terrestres et à aimer les choses célestes. » Et puis, aimons à redire la prière des premiers chrétiens. Saint Paul la cite déjà, et l'Apocalypse se clôture par cette prière qui était aimée des premiers chrétiens. « Venez, Seigneur Jésus, Maranatha », c'est de l'araméen, « Venez, Seigneur Jésus, donnez-nous un ardent désir du ciel et conduisez-nous dans votre royaume pour que nous y soyons avec vous et avec la Sainte Vierge, la Reine du ciel, pour l'éternité. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.